Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Studio Tamani, il est 18h à Bamako, le journal avec Seydou Fomba, bonsoir. La campagne pour la présidente de la FEMAFOUT désormais ouverte. Deux candidats se disputent la succession de Boubacar Babadjara. Ils se fixent tous les deux comme objectif principal la réconciliation de la famille du football divisée après une longue crise. Pour certains analystes, chacun des deux candidats peut redonner au football malien ses lettres de noblesse, mais estime-t-il, cela ne pourra être possible que lorsque le perdant accepte de soutenir le gagnant dans un esprit de fair play. En visite la semaine dernière à Mopti, l'ambassadeur des États-Unis a promis que les classes rouvriront dans la région la rentrée prochaine, mais pour la présidente de la société civile de Mopti, cet objectif est pour le moment irréaliste. Le Centre d'études et de renforcement des capacités d'analyse et de plaidoyer CERCAP alerte sur un risque de disparition de la presse écrite au Mali. Selon le CERCAP, les bilans financiers des organes de presse et le niveau de rémunération des employés montrent une tendance à la baisse. Auditrice, auditeur, bienvenue. La campagne pour la présidence de la FEMAFOUT désormais ouverte. Deux candidats, Salah Ababi et Mamoutou Touré, se disputent la succession du président sortant, Boubacar Babadjara. Ils se fixent tous les deux comme objectif principal la réconciliation de la famille du football divisée après une longue crise. Pour Adamaté Koulibaly, président du Congrès national des supporters des Aigles du Mali, il serait bon de parvenir à un bureau consensuel afin d'éviter une nouvelle crise. Il est joint par Idrissa Sakou.
Nous prenons le consensus. Nous souhaitons vivement qu'il n'y ait même pas d'élection, qu'il y ait un bureau consensuel mis en place le 8 octobre. C'est un peu ça la position de notre organisation concernant les élections du 8 octobre. S'ils se mettent ensemble, c'est possible, oui. C'est des dirigeants du football, c'est des amoureux du football, c'est des connaisseurs du football, c'est des gens qui ont l'amour du football, c'est des gens qui ont l'amour de ce pays. Bon, moi, je pense quand même que pour l'intérêt supérieur du football malien, l'intérêt de la nation malienne, nous pensons que ces gens-là, s'ils se mettent ensemble, je suis convaincu à 100% que le football malien, c'est-à-dire on peut espérer en tout cas un lendemain meilleur pour notre football. En tout cas, ça, j'ai la ferme conviction que si les deux se mettent ensemble, si on arrive à aller vers un consensus, que consensuellement on arrive à dégager un bureau, à mettre un bureau en place pour la FEMAFOUT, je suis convaincu que les choses vont marcher.
Pour certains analystes, chacun des deux candidats peut redonner au football malien ses lettres de noblesse, mais estime-t-il, cela ne pourra être possible que lorsque le perdant accepte de soutenir les gagnants dans un esprit de fair play. Selon Moussa Boli, journaliste et chroniqueur sportif, le succès de Babadjara doit œuvrer à mettre fin à la crise qui secoue le football malien. Il est juin, toujours par Idrissa Sakou.
Que ce soit Salah Ababi, que ce soit Mamoutou Touré, Bavier, c'est des hommes du Sérail. Ils connaissent les difficultés du football pour Bavier. Ça fait au moins plus de deux décennies qu'il est associé à la gestion du football, directement ou indirectement. Salah est président de Ligue de Tombouctou, il est président de Jeanne d'Arc de Bamako. Donc ça veut dire que c'est des hommes qui sont en terrain connu. Mais en réalité, le souci, c'est surtout le respect des mandats. C'est-à-dire la rivalité doit s'arrêter une fois que l'un d'entre eux est élu. Une fois que quelqu'un est élu, il faut que tout le monde se donne la main autour de cette personne pour l'aider à atteindre ses objectifs. Parce que atteindre ses objectifs, c'est pas pour lui, mais c'est pour le football malien. Mais si après les élections, la même guerre continue, quels que soient les talents ou les compétences, quelle que soit l'ambition de celui qui a été élu, il ne pourra pas aller loin dans une situation de guerre.
Pour réagir à ces informations, rendez-vous sur la page Facebook de Studio Tamani ou sur son compte Twitter. Vous pouvez également nous faire parvenir vos réactions sur le répondeur au 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. En visite la semaine dernière à Mopti, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a promis que les classes rouvriront dans la région la rentrée prochaine. Pour la présidente de la société civile de Mopti, cet objectif est pour le moment irréaliste. Elle estime que la réouverture des classes à Mopti dépend du retour de l'administration et de l'armée. Selon elle, les enseignants, tout comme les parents d'élèves, sont gagnés par la peur à cause de l'insécurité qui règne dans la région. Madame Moudjara Tatatouré, présidente de la coordination de la société civile de Mopti, joint au téléphone par Mariam Koulibaly.
À notre avis, la situation est plus que complexe dans notre région, madame. La situation sécuritaire, parce que quand on a réouverture des écoles, c'est que les élèves, leurs parents, et les enseignants ont accepté d'aller dans une localité sécurisée. Bon, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, l'insécurité ne fait que s'agrandir. Il y a des nouvelles zones aussi. Dans le temps, là, on a concentré ça à Yuwaru, à Tienenku. Aujourd'hui, dans le cercle, même dans la commune de Mopti, là, on a des problèmes ici dans certains villages. Regardez juste derrière le fleuve, ici à Mopti. On ne peut pas être dur que, avec certitude, dire que ces écoles seront rouvertes, à condition que les forces armées et l'administration soient déployées partout où il y a les classes.
Le centre d'études et de renforcement des capacités d'analyse et de plaidoyer CERCAP alerte sur un risque de disparition de la presse écrite au Mali. Selon le CERCAP, le bilan financier des organes de presse et le niveau de rémunération des employés montrent une tendance à la baisse. Pour le président de la Maison de la Presse, les journalistes maliens peuvent surmonter ces difficultés avec plus de formation et de rigueur dans le travail. Le reportage d'Intala Agbilal.
Dans son rapport d'études sur la cartographie économique de la presse écrite au Mali, le Centre d'études de renforcement d'analyse et de plaidoyer CERCAP souligne d'énormes difficultés financières auxquelles sont confrontées les maisons d'édition au Mali. Selon le directeur du CERCAP, la précarité des maisons d'édition font peser des gros risques sur la qualité et la régularité des productions.
Nous sommes rendus compte que la presse malienne vit dans une situation économique très précaire et que cette précarité la rend fragile et sensible aux pressions de toutes sortes de groupes mafieux, malfaisants. Alors quand vous avez de très nombreux journaux qui sont dans des situations très précaires, c'est la porte ouverte à ce que des groupes mafieux en prennent le contrôle pour imposer des thématiques ou défendre des causes qui vont dans le sens de leurs intérêts. Donc c'est pour dire que historiquement, chaque fois que vous avez des organes de presse fragiles ou liés aux intérêts mafieux, c'est la démocratie, ce sont les intérêts du peuple qui en pâtissent. Sans compter que beaucoup d'hommes politiques de tous bords politiques, pour descendre en flamme leurs adversaires ou pour faire leur dithyrambe, même lorsqu'on connaît eux, leurs propres indélicatesses, se font chanter leurs louanges dans la presse écrite au Mali. Mais tout cela est dû à la précarité de son statut financier.
Pour assurer la régularité des journaux et surmonter toutes les difficultés liées au manque d'équipement et matériel, le centre d'études et d'analyse suggère l'application stricte des conventions collectives des journalistes.
Il faut que la convention collective des journalistes soit appliquée pour sortir le journaliste de la précarité, pour le sortir du journalisme alimentaire. Une deuxième proposition est que l'État doit entamer avec les patrons de presse une réflexion stratégique pour qu'il y ait de grands groupes professionnels de presse au Mali. Des grands groupes qui soient financièrement viables. Au lieu d'avoir des rédactions ou des journaux qui se limitent à un seul journaliste ou à deux seuls journalistes, nous aurons dans ce cas des rédactions de 50 journalistes, de 30 journalistes. Et cela diminuera de beaucoup la précarité et des journalistes eux-mêmes et des journaux en tant qu'entreprise de presse.
En attendant l'application de ces mesures, certains lecteurs des journaux maliens ne cachent pas leur déception. Selon T, en plus d'être triffé de fautes, plusieurs journaux maliens font du copier-coller à la place de l'investigation.
Sincèrement, c'est inquiétant pour l'opinion publique parce que la presse, elle façonne aussi l'opinion publique. Parce qu'un citoyen bien informé, connaissant mieux ses droits et ses devoirs, c'est un citoyen qui est apte à embarquer le train du développement. Malheureusement, dans la presse malienne, ce sont les jugements des valeurs qui dominent. Donc ça veut dire que c'est soit acheté, c'est soit un article idéologique. Dans la presse malienne, nous n'avons pas assez d'investigation. Quand vous lisez les articles au Mali, d'abord, ce sont des articles selon des journaux cousu de faute. Quelle soit la presse écrite ou la presse parlée, c'est vraiment cousu de faute. Donc si l'article n'est pas acheté, le journal n'est pas acheté, forcément les revenus vont chuter. Et malheureusement, c'est dans un tel contexte que le journal devient une proie facile. Une proie facile pour diffuser du n'importe quoi, pour faire les élus de n'importe qui.
Pour le président de la Maison de la Presse, avec plus de formation et d'engagement, les journalistes maliens peuvent surmonter ces difficultés.
Si on lit les journaux maliens, parfois on a honte à la formulation des phrases, les fautes copier dans le texte, même les gens élémentaires en grammaire sont ignorés ou sont mal connus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le conseil est là, on fait la plus nulle de la chirurgie, il faut se dire la vérité. Mais la solution, il faut qu'on s'y mette au travail, il faut qu'on s'y mette en cause. C'est pour vous dire qu'on n'a pas le choix, il faut former les gens du malien, il faut qu'on ait la mise en place, qu'on ait des programmes de formation assez pointus qui permettront aux journalistes de faire leur niveau et surtout d'être à hauteur de l'attente.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Actualité du journal. Un garçon de 18 ans s'est noyé lundi dernier dans la mare de Yasso dans le cercle de sang, selon des témoins. Le drame est survenu alors que le jeune homme s'amusait dans l'eau. À en croire des sources locales, la mare de Yasso a fait plusieurs victimes ces trois dernières années. Les équipes des médecins ont clôturé hier une visite d'une semaine dans les centres de santé de Yoroso. Il s'agissait d'évaluer la qualité des prestations sanitaires, des vaccinations, le suivi nutritionnel des enfants et la prévention mère-enfant du VIH-SIDA. La visite a été organisée par la Direction régionale de la santé et ses partenaires. Le Grand Dialogue, votre émission débat de tous les soirs, c'est dans quelques petites minutes. Ça sera avec Aliou Sidibé. Le sujet du jour, c'est l'accaparement des terres. C'est donc la fin de ce journal qui vous a été présenté par Seydou Foma et mis en onde par Seydou Bo. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute dans un instant, le magazine.